voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre Hervé Temim. Ce soir, la conception du métier d'avocat.
Bonsoir Hervé Temim.
Bonsoir.
On a abordé précédemment comment vous en êtes venu à choisir le métier d'avocat et votre conception de ce métier. On va aller plus avant dans votre manière d'exercer votre métier d'avocat et ainsi découvrir davantage l'homme que vous êtes. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a autant d'avocats que d'hommes ?
Oui, qui fait le charme de notre métier. Je dirais d'hommes et de femmes.
Justement, vous êtes à la tête d'un des cabinets les plus prestigieux de France. Comment est composé ce cabinet ? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes ? Est-ce qu'il y a toutes les générations ? Est-ce qu'il y a différentes personnalités ?
J'ai eu l'idée de faire un cabinet d'avocats avec des pénalistes, avec des associés, grâce à un avocat qui n'est plus avec nous, qui s'appelle François de Castro, et qui m'a donné l'idée de faire un cabinet pérenne. Je me rappelle, je me moquais de moi en parlant de pérennité. Et il nous a quittés, c'est la vie d'un cabinet, des relations entre les uns et les autres, mais nos rapports sont très bons. Et depuis, j'ai essayé de composer un cabinet qui ait le même souci de pérennité, avec peut-être des générations plus jeunes. Dans mon cabinet, il y a 4 associés plus moi, et puis une douzaine de collaborateurs, ce qui est une équipe pour du pénal probablement la plus nombreuse en France. C'est petit, hein, mais je pense qu'en France, c'est sans doute celle qui a l'effectif le plus grand, et peut-être même par rapport à beaucoup de cabinets étrangers. Il y a une avocate merveilleuse avec moi qui est là depuis 30 ans, qui n'a connu que moi comme patron, qui s'appelle Corinne Dreyfus-Schmidt, une autre femme plus jeune qui s'appelle Julia Minkowski, et puis 2 avocats très jeunes. Cette avocate a 35 ans, Corinne Dreyfus-Schmidt a quelques années de moins que moi. Et puis ces 2 avocats ont autour de la trentaine, Martin Reynaud et Léon Delforno sont, je crois, des associés exceptionnels, avec des collaborateurs jeunes, brillants. Alors, je déteste les quotas, mais je tiens à ce qu'il y ait beaucoup de femmes. On en a eu souvent plus que d'hommes, et là, on est à peu près moitié-moitié. Oui.
Qu'est-ce qu'un bon avocat, Hervé Temim ? Est-ce que c'est un avocat qui a une clientèle prestigieuse ? Est-ce que c'est un avocat qui gagne un maximum de procès ? Est-ce que ça se définit, un bon avocat ?
Ça ne se définit pas par des critères objectifs. Tous les classements, il y en a, valent pas grand-chose. Un bon avocat, c'est certainement pas un avocat qui a une clientèle prestigieuse. C'est un avocat qui gagne ses procès. Ce qui se passe en réalité, c'est que dans l'évolution de la carrière d'un avocat, je suis bien obligé de parler de carrière, vous finissez par avoir une clientèle prestigieuse parce que le bouche à oreille fait de vous un bon avocat. Vous gagnez des procès et donc vous avez d'autres clients qui vous en envoient d'autres et vous progressez comme ça dans la carrière. Si vous pensez que j'ai toujours eu des clients prestigieux, ben vous vous trompez.
Enfin, oui, parce que vous n'avez pas aimé ma présentation où je disais que vous étiez
mondain. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne peux pas vous dire, parce que je vais vous dire une chose. Vous voyez, je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu de patron. Donc je me compare à qui ? Je regarde en haut dans le ciel, je me compare aux plus grands. Et je ne me considère pas comme l'égal des plus grands, bien sûr que non. J'essaie de progresser, j'essaie d'aller le plus haut possible. Mais j'ai beaucoup d'ambition, je rêve encore, je suis un enfant. Donc je ne suis pas fier de ce que je suis, je serais un imbécile de l'être. En revanche, je suis fier d'une chose, c'est que je ne dois rien à personne et que je n'ai jamais fréquenté aucun cercle, aucun clan dépendu de qui que ce soit, jamais. Et que pour rien au monde, je ne perdrais une soirée pour des mondanités. Je n'ai même jamais fait de déjeuner d'affaires dans ma vie, vous n'imaginez même pas ce qu'est ma vie. Donc, parce que je connais des gens très connus aujourd'hui, j'ai 61 ans, que ça fait 40 ans de barreau, c'est vrai, je serais un mondain, c'est ça ? Ça me touche parce que c'est tout ce que je déteste. Alors, on est parfois tout ce qu'on déteste sans le savoir. Et j'ai des faiblesses, je peux vous en confesser certaines.
Lesquelles ? Quelles faiblesses ? Quels défauts vous prêtez ?
Ah, des défauts ? Ouf ! Alors, des faiblesses... Non, mais je parlais de faiblesses de ce type-là. Des défauts à plus savoir qu'en faire. Je suis...
Des vrais défauts, pas des faux.
Non, des vrais défauts. Je suis impatient, je suis excessif. Attendez, on peut aimer les gens pour leurs défauts aussi. Hein. Donc, mais c'est des vrais défauts. Je suis incapable de modération et je suis capable d'injustice avec les gens que j'aime le plus. Car j'ai trop conscience des rapports inconditionnels dans lesquels la force est tellement grande qu'on n'a rien à prouver. C'est des gros défauts, me semble-t-il. C'est des vrais défauts. En tout cas, pour moi, c'en est. Et j'en ai probablement d'autres. Et puis, j'ai des côtés ridicules. J'ai des côtés grotesques, évidemment, bien sûr. J'aime pas les décorations, j'aime pas les honneurs, j'en ai rien à faire. Mais probablement, et on se moque de moi, je titre là-dessus, j'ai bien aimé à un certain moment fréquenter des actrices. Oui, c'est possible. J'ai bien aimé la compagnie de jolies femmes. C'est grotesque, peut-être, je l'admets. Oui, ça, j'ai ses défauts. Et vous savez, j'en ai un en tous les cas. C'est pour ça que la mondanité, c'est le contraire de moi. Je suis un homme marié et d'une rectitude absolue. Mais avant de l'être, j'adorais la formule de François Truffaut. À la tombée de la nuit, je ne dîne plus avec des hommes. C'est vrai. Je côtoie pas beaucoup d'hommes. J'ai des amis plus que chers. Mais je déjeune pas. Vous voyez, je déteste les mondanités. Et je déteste les contraintes. Vous me le disiez, la première émission, dans cette séance de psychanalyse, là. Voilà. On m'a jamais...
Vous avez manqué d'autorité.
Mais c'est impossible de me faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Pour moi, le pire du pire, c'est de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et les trucs mondains, voilà. Je suis invité, mais je ne vais nulle part. Je vais à aucune, parce que ça m'ennuie. Pas parce que je trouve ça ridicule. J'aime pas les avant-premières. Je déteste les soirées mondaines. Je ne dîne qu'avec des gens que j'aime quand je dîne dehors. Et je suis jamais aussi heureux que seul chez moi en attendant Deliveroo. Je connais ma vie. Et voilà, je connais ma vie. Donc, c'est pour ça, je sais de quoi je parle.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que vous avez, comme tous les avocats, un ego? Important.
Énorme. Oui, mais le problème, c'est de pas l'avoir est une faute professionnelle. Le problème, c'est pas la taille de l'ego qui compte. C'est la manière, c'est son équilibre. Si ça a un sens, vous voyez, il faut pas non plus qu'il soit boursouflé à l'excès. La taille démesurée ou la gangrène, c'est trop. Et après, il faut que cet ego serve. Mais est-ce qu'on demande à, j'ai dit n'importe quoi, je suis pas un médaillé. Est-ce qu'on demande à un médaillé olympique il arrive souvent que vous gagnez des titres sans vouloir les gagner. Vous croyez que, j'adore le tennis, vous croyez que McEnroe ou Borg avaient pas envie d'être, vous croyez que Federer, enfin voyons, j'ai un ego énorme, peut-être pas assez d'ego d'ailleurs, mais bien sûr j'ai un ego énorme. Mais cet ego ne me fera jamais confondre ce qui est l'intérêt de mon client par rapport au mien, jamais. Et j'ai failli dériver. Parce que les médias... j'adore vous parler, par exemple, maintenant. J'adore la télé. J'adore le direct. Bien sûr. Et qui n'a pas la tentation d'être connu quand il peut l'être? Surtout que moi, j'ai commencé à pouvoir l'être tard, après avoir, je crois... accompli pas mal de choses sur un plan professionnel. Et je l'ai d'ailleurs pour de mauvaises raisons. Je suis prêt à en sourire avec vous. Mais bon, à un moment, on me voyait un peu plus. Et puis, j'ai considéré que j'ai senti le moment où je risquais de devenir addict. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone proche de l'addiction dans tous les domaines. Mais ne pas y sombrer. Je pense pas y avoir sombré, mais d'autres pourraient me dire le contraire. Le type qui a quasiment tué notre métier, c'est Badinter. Être l'avocat qui va, après l'affaire Buffet-Bontemps, sauver toutes les têtes qu'il va défendre, pour devenir le garde des Sceaux qui va abolir la peine de mort, même si on connaît la part du destin là-dedans. Quel plus beau destin d'avocat que celui qui fut le sien? Est-ce qu'on se pose la question de savoir s'il avait un ego? Et à mon avis, il n'y a même pas de sujet. Ça, si vous voulez, on se moque. Je suis le premier à me moquer de l'ego, bien sûr. Mais, est-ce que votre ego prend le dessus sur votre équilibre professionnel, ou est-ce que vous arrivez à vivre avec? C'est comme ces mots.
Est-ce que le métier d'avocat s'apprend? Quelle serait la part technique, la part de travail, la part personnelle? Une autre façon de poser cette question, c'est de vous demander, est-ce que le métier d'avocat reste un métier artisanal au sens d'humain?
Ça, c'est une question passionnante, parce que moi qui n'ai pas eu de patron, Alors, le métier d'avocat, je commence par la fin, le métier d'avocat reste un métier totalement artisanal. C'est de l'artisanat. Et d'ailleurs, vous voyez, par exemple, mes jeunes avocats, et même moi jeune, j'ai toujours des métaphores qui concernent l'artisanat. Pour moi, on est exactement comme dans les coulisses d'un restaurant. On est des cuisiniers, on est des chefs. D'ailleurs, moi, j'adore les artisans. J'adore les artisans. C'est un artisanat, il n'y a aucun doute. Est-ce que ça s'apprend? Oui. Mais moi, je crois, vous me direz, c'est tellement personnel. Je ne crois pas à l'enseignement, je crois à l'exemple. Je crois à l'inspiration, je crois à l'autorité, je crois à l'ambition. Je crois à l'amour et au respect du métier. Vous savez, je sais que certains me prennent pour un ravi de la crèche par rapport au métier, mais nous sommes une confraternité extraordinaire. Quand notre confrère et mon si grand ami Jean-Yves Liénard est décédé, n'imaginez pas la ferveur, l'affection, l'admiration qui se sont déployées de manière spontanée. Et un de vos collègues m'a dit, parce que je lui ai dit, tu vois quand même, qui suit la chronique judiciaire, Michel Marie du Nouveau Détective, qui est un très très bon journaliste qui connaît la cour d'assises depuis 40 ans, il m'a dit, il faut bien reconnaître que je crois que vous êtes la dernière confrérie où ça se passe comme ça. C'est un métier, vous savez, on a le sentiment, je vous dis pas qu'on est à la hauteur du métier, hein, on a le sentiment de faire un grand métier. Et moi, vous avez parlé de mon livre, j'espère faire mieux la prochaine fois si j'en fais un deuxième, mais j'ai dit, parce que on fait un métier de lignée. Notre rêve, notre ambition, c'est d'essayer de prendre la suite de ces grands artisans qu'on a admirés, dont on n'aura jamais le sentiment qu'on les a égalés, mais vis-à-vis desquels on veut à peu près être, se montrer digne de ce qu'il signifiait, de l'exigence de notre métier. On fait un très grand métier. Et d'ailleurs, Jean-Louis Pelletier, qui était un avocat, qui est toujours là, mais qui n'exerce plus, exceptionnel, un immense avocat d'assises, avait une formule qui venait des avocats du Midi, qui disait « Le meilleur d'entre nous n'est pas à la hauteur du métier ». Je le pense.
Vous nous disiez que vous aimiez les chiffres.
Oui, oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des avocats littéraires et des avocats mathématiciens? Georges Kegeman serait par exemple typiquement un avocat littéraire, hein, et vous, vous seriez un avocat scientifique.
Écoutez, je crois que des avocats mathématiciens, j'en connais pas beaucoup. Des avocats littéraires, oui, il y en a beaucoup. Georges Kegeman est un avocat exceptionnel. C'est vrai que c'est un avocat littéraire, même si il aime tellement
les bons mots.
Les bons mots et les livres qu'il a l'orgueil et l'intelligence de n'en avoir jamais écrit, lui, pour ne pas offenser ce qu'il pense être la grande littérature. Mais Georges Kegeman, c'est plus qu'un avocat littéraire. Parce que non pas qu'être un avocat littéraire soit péjoratif, mais c'est surtout, c'est un homme d'audience exceptionnel. C'est un type qui a un talent fabuleux. Et moi, je suis pas un avocat scientifique. Non, mais moi, si vous voulez, d'abord, il faut faire avec ses qualités et ses défauts. Il y a des chefs qui sont mauvais pâtissiers, des grands chefs qui sont mauvais pâtissiers. Moi, je sais où je peux être plus faible et où j'espère l'être moins. Moi, je considère, si vous voulez, que toute affaire, même la plus compliquée, c'est un problème qu'on doit essayer de résoudre. C'est comme ça que j'aborde le traitement de toute affaire. Donc déjà, si j'arrive à trouver un énoncé simple et rapide, je suis proche du succès, enfin du succès. Je suis proche d'avoir trouvé une défense crédible et possible.
Il n'y a pas un portrait de vous, Hervé Temim, où on ne souligne pas que vous êtes joueur de poker. Donc,
ah oui.
Est-ce que c'est vrai? On m'a dit aussi de vous que vous étiez hypermnésique. Là aussi, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce que ça vous aide dans votre métier d'avocat? Est-ce que vous en faites quelque chose?
Je suis un très piètre joueur de poker, donc si j'étais un grand joueur de poker, ça m'aiderait probablement. Vous savez, il y a des choses ataviques. Mon père était un des meilleurs bridgeurs français en étant médecin, à l'époque où les étudiants en médecine jouaient au bridge. J'aime jouer aux cartes, je suis malheureusement un joueur moyen, mais j'ai le sens des cartes, parce que j'ai le sens des cartes. Mais voilà, un niveau faible, donc ça ne m'aide malheureusement pas pour mon métier. Et c'est une de mes inquiétudes, j'ai été hypermnésique, et je suis pas sûr de l'être vraiment autant que je l'étais. Mais je me suis caché de ma mémoire pendant pratiquement, oui, les 50 premières années de ma vie, oui. Oui. Non, ce que j'ai de toujours d'à peu près constant, c'est mon sens des chiffres et du calcul. Et ça m'a servi parfois dans mon métier, rarement, mais ça me sert, oui. Ça me sert de temps en temps.
Vous l'avez dit, vous rendez beaucoup hommage à vos aînés. Quand on est avocat, on cite souvent les mêmes, ce qui est normal, Robert Badinter, Émile Pollack, Henri Leclerc. Moi, j'aimerais vous faire parler d'un autre avocat, clivant, âpre, qui est mort aujourd'hui. Vous paraissez comme ça deux personnalités antinomiques. Pourtant, vous aviez de l'amitié pour lui. C'est Thierry Lévy, qui était un immense avocat.
Bien sûr.
On ne lui rend pas suffisamment hommage, je trouve.
Écoutez, chez nous, oui. Et c'est ça qui compte le plus. J'ai la chance d'avoir à mon cabinet un de ses fils, Balthazar, qui a plaidé pour la première fois avec moi il y a peu, et en qui je crois beaucoup, et qui a une ressemblance avec son père qui est frappante. Thierry Lévy, c'était un type extraordinaire, un avocat hors norme, très clivant, comme vous le dites effectivement, ayant un goût et un goût du paradoxe poussé à l'extrême. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure de faiblesse, de côté même ridicule. J'ai jamais voulu avoir de décoration, je pense pas que ce soit par péché d'orgueil. Mais un jour, Thierry Lévy m'a appelé pour que je le défende, alors que je le connaissais à peine. Et parce que son grand ami, Jean-Denis Bredin, ne pouvait pas le faire, étant conflicté dans l'affaire. Et ce jour-là, on a en plus, et c'était juste gagné, j'ai dit un peu en souriant, il y a longtemps, hein, ça c'était ma Légion d'honneur. J'ai été très angoissé à l'idée d'avoir à le défendre, et très flatté qu'il ait pensé à moi, voilà une faiblesse. Ça a accru considérablement l'impératif d'exigence que j'avais dans sa défense, mais nous sommes devenus amis. Et ce que j'aimais le plus chez lui, et qu'on connaît peu, c'est qu'en fait, c'était un homme d'une intelligence, d'une singularité exceptionnelle. On a passé notre temps à se marrer. Il avait un goût, une appétence pour tout ce qui était drôle ou ridicule dans l'existence, qui était merveilleux, et un sens de l'observation formidable. Et il aimait rire. Il aimait même que je lui raconte les blagues de potage qu'on faisait au barreau avec mon immense ami qui est Thierry Herzog, dont il adorait que je lui raconte les miaulements à l'audience, les moqueries incessantes. C'était quelqu'un, Thierry, avec qui, en fait, on riait énormément et on le savait peu. Et il avait une élégance, une dignité, un recul sur lui-même. Non, c'est... voilà, là encore, c'était un seigneur.
Thierry Lévy était un homme de gauche.
Oui.
Êtes-vous un homme de gauche et êtes-vous un avocat de gauche?
Je suis pas un avocat de droite ni un homme de droite. Non, je suis pas un avocat... Enfin, ça n'a pas de sens. Pas du tout d'être un avocat de gauche, ça en a un, d'être un avocat de gauche. Moi, vous savez, j'ai eu un engagement politique extrêmement limité. Je me suis jamais... n'ai jamais été inscrit dans aucun parti, dans aucun groupe. J'ai jamais... aucun groupe, à part sur un avocat pénaliste. Jamais, même pas. Nos sports, même pas un club de sport. Mais moi, vous savez, Voilà, j'étais depuis l'âge de 14 ans totalement opposé à la peine de mort. J'étais passionné par le combat pour l'abolition de la peine de mort. J'ai toujours voté dans la même direction jusqu'au moment où j'ai plus voté du tout, qui est récent. Mais j'ai pas eu d'engagement politique dans mon métier, non.
Aujourd'hui, vous ne votez plus?
Si, alors j'ai voté aux dernières élections présidentielles, j'avais pas voté à celles qui avaient précédé, oui.
Vos tarifs horaires tournent autour de 800 euros l'heure, sauf erreur de ma part, ils ont peut-être
Non,
augmenté
alors c'est
depuis que j'en ai
très
pris les
bien parce que
notes.
vous vous documentez. Je vois que vous
Voilà.
actualisez les tarifs. Alors ça peut même être plus cher et ça peut être évidemment beaucoup moins cher, voire gratuit. Mais oui, absolument.
Alors, je vais vous épargner la question sur
Non, mais
peut-on
vous
être
avez
un
raison.
homme de gauche et gagner beaucoup d'argent? Mais en revanche,
C'est pour ça que je ne me vis pas. On peut, mais je ne me vis pas comme un homme de gauche, pas du tout. Ce serait grotesque de ma part.
Mais je vais en revanche vous poser une question, c'est que un bon avocat, voire un très bon avocat, est-il forcément un avocat cher, voire un avocat très cher?
Bien sûr que non, c'est absurde. D'abord, je vais vous dire une chose, je n'affiche pas. J'ai eu le tort il y a très longtemps, justement, à une émission de Canal+, où il y avait Olivier Metzner, qui n'est plus là, qui était invité avec moi. On a échangé nos tarifs horaires. Et comme d'ailleurs j'étais moins cher que lui, j'ai dit que mon rapport qualité-prix était bien, bien supérieur au sien. Mais bon, pour être sérieux, voilà, il y a un marché. Ce marché, il est hors de prix. Vous savez que si j'ai été l'auteur de cette formule qu'on me ressort souvent, vous auriez pu me ressortir, j'aurais pas les moyens de me prendre comme avocat. Je suis dans les prix du marché, ce marché est fou. En tout cas, il est très élevé. Les gens qui payent ces tarifs sont d'ailleurs généralement des entreprises, sont des gens qui ont largement les moyens de le faire, et dans des affaires où les enjeux sont généralement colossaux sur un plan financier. Il va de soi que ces tarifs horaires, et même que la tarification horaire, n'est quasiment jamais appliquée à un particulier. Et que dans mon cabinet, alors je suis honnête avec vous, hein, c'est pas une partie importante de l'activité de mon cabinet. Quand je dis importante, c'est pas 40%, ni même peut-être 20%, sûrement pas. Mais au 20%, on doit pas être loin. Il y a une activité pro bono, c'est-à-dire qu'on accepte des affaires sans rémunération et pas du tout en échange de publicité ou de choses comme ça. C'est quelque chose que je veux même pas entendre. Je le fais. Sans en attendre la moindre reconnaissance de quiconque, parce que ça fait partie de la tradition de notre métier. Tout le monde l'a toujours fait. Bon, dans le fonctionnement actuel des cabinets d'avocats, qui est très différent du passé, c'est plus rare, mais nous le faisons. En plus, j'essaye de me donner bonne conscience, parce que vous essayez de me culpabiliser avec ça, et vous avez bien raison.
Oui, c'est tout à fait le but de ma question,
Mais
c'est
oui,
vrai.
non, mais absolument, vous
Tout à
avez bien
fait.
raison. Et vous savez, je vais ajouter autre chose. Deux choses. La première, c'est que, depuis que je défends des gens qui ont de très gros moyens, je ne sais plus demander même un horaire plus que raisonnable à des gens qui n'en ont pas. Et la deuxième, c'est que je suis passé par tous les stades. J'ai commencé à zéro comme revenu. Et en plus, je défendais les gens comme j'avais 21 ans, j'étais commis d'office. Quand ils me désignaient sans que je le sois, je leur écrivais, je vous défendrai gratuitement, ce qui est bien normal. J'étais à côté de la plaque. J'espère grimper encore, hein? Bien sûr. Non, mais j'ai eu tous les niveaux de revenus. J'étais pas meilleur quand je gagnais moins bien ma vie. Je suis pas meilleur aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, et c'est ça qui est très injuste pour des avocats qui n'ont pas la chance d'avoir les clients que j'ai parfois, c'est que vous avez des avocats absolument merveilleux qui déploient des trésors d'humanité, de technicité et de talent pour des honoraires extrêmement, modestes, avec parfois beaucoup moins de reconnaissance que ceux qui vous payent très grassement pour des affaires finalement moins compliquées et qui croient que vous leur avez sauvé la vie. Il n'y a pas de justice, y compris à ce niveau-là, croyez-moi.
Vous avez comme clients des chefs d'entreprise,
Bien sûr,
Jacques
oui.
Servier, Bernard Tapie, Alain Felou,
Oui, heureusement, oui.
qui sont, on imagine, de fortes personnalités.
Ouais.
Comment on fait pour, ben justement, pour prendre le dessus dans son métier sur ces hommes-là?
Alors,
Est-ce qu'on peut leur donner des ordres? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il vous est arrivé de détester vos clients?
on défend aujourd'hui même de grands groupes avec des présidents de multinationales, etc. Première question, je mets Bernard Tapie à part. C'est un cas particulier. un énorme plaisir à le défendre, si je peux parler de plaisir, et une relation excellente avec lui. Mais c'est un type hors norme. Donc, il vous demande souvent conseil. Mais si je vous disais que je maîtrise sa communication et le reste, je vous mentirais. Et c'est très bien comme ça. Il y a d'autres cas, mais lui est un cas assez particulier. En revanche, il ne m'a jamais, de près ou de loin, placé dans une situation délicate. Et il a parfaitement compris quel était mon mode de fonctionnement, comme j'ai compris quel était le sien. Mais ça, c'est un cas particulier. Bernard Tapie, je le vis. D'ailleurs, je ne le vis pas comme un président de groupe aujourd'hui. Et sinon, avec les gens, c'est Pascal Robert-Diard qui a écrit cet article fameux pour les avocats, de la paix gros puissant, les avocats qui ont commencé. Voilà. C'est vrai qu'on défend des gens soi-disant puissants, ou puissants sur le plan économique ou financier, ou médiatique. Et là, je vais vous dire une chose, très franchement, il n'y a pas de cas dans lesquels je n'ai pas conservé l'autorité qu'un avocat doit avoir à l'égard de son client. Dans mon domaine d'intervention, c'est moi le patron. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel. En revanche, et ça c'est beaucoup plus intéressant encore, la limite, c'est pas qui a l'autorité. L'autorité, je l'ai. Et je l'ai de manière naturelle. Et c'est parfois relativement plus facile que vous l'imaginez. L'autre question, c'est... Vous l'avez, mais non, vous leur donnez pas d'ordre. Parce que vous vivez pas à leur place, vous vivez pas leur vie. Moi, si j'étais client d'un avocat, même le plus grand avocat du monde pour qui j'ai un respect infini, je serais pas un perroquet. Je ne dirais pas ce qu'il me dirait de dire. Je dirais ce que je voudrais dire à l'aune de ses conseils. Et après, j'aurai confiance en lui pour tout ce qui est la mise en place de la défense. Donc le rapport entre l'avocat et le client n'est pas ce qu'on imagine. Donc c'est pas des ordres, mais par contre, c'est un vrai sujet essentiel. Quand vous passez effectivement à ce type de clientèle, il faut conserver le gouvernail.
Et est-ce qu'il vous arrivait, est-ce qu'il vous arrive de détester vos clients en sachant que si vous me répondez non, je ne vais pas vous croire?
Mais je ne vais pas vous répondre non. Quand je déteste mes clients, j'arrête de les défendre. Ça m'est arrivé souvent. Et une fois, j'ai détesté jusqu'au bout une cliente. C'était une affaire épouvantable. J'ai plaidé avec Corinne Dreyfus-Schmidt qui m'avait appelé à la rescousse, la pauvre. Et j'ai été en dessous de tout. Pourquoi ? C'était une affaire de mauvais traitement à enfant qui avait entraîné la mort d'un enfant. Avec des faits atroces. C'était la mère. Je ne vais pas revenir à la psychanalyse initiale, notre première séance. On n'arrive pas à dépasser celui qu'on est en étant avocat. Vous imaginez l'image que j'ai d'une mère. Et cette mère avait pour moi une responsabilité écrasante. Elle n'était pas poursuivie pour complicité, mais pour non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'elle était en prison, mais elle ne risquait que, si j'ose dire, 5 ans de prison. Et il n'y avait pas une chance sur 1000 qu'elle ait moins. J'ai pas su la défendre. Parce que j'ai pas su comprendre que la détestant ou détestant ce qu'avait été son comportement, j'aurais mieux fait de ne pas le faire. J'ai ce souvenir très précis. Et j'ai des clients qu'effectivement je déteste, et je vous assure, je vais pas au bout. Non. Je vais pas au bout. Non.
À demain, Hervé Temim.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Hervé Temim. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Jean-Marie Porcher, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.